Bonjour. Vous m'entendez bien? Voilà, excusez-moi. Donc on va essayer de tenir le temps, parce qu'il y a la maison aux heures. Je ne sais pas si le père Lucas m'a présenté. Donc je m'appelle Anna. Non, ça va, ça va aller. Donc je suis sœur consacrée de la communauté d'Emmanuel. Et je suis portugaise. Donc c'est un petit peu peut-être pour ça qu'on m'a demandé de faire cet enseignement. J'ai grandi au Portugal, je suis née dans une ville à 70 km de Fatima. Voilà. Il y a quelques semaines, j'avais envoyé un petit message au Père Benoît, l'ancien recteur, pour lui dire de prier pour moi, que je préparais un enseignement sur Fatima, pour donner au sanctuaire, et il m'a dit « commence par un témoignage ». Bon, je dis « bon ». Et en fait, c'est pas évident de penser à quelque chose de concret. En fait, Fatima, c'est un lieu qui est très proche de mon histoire, de ma vie. Et quand j'étais petite, ça ne me disait pas grand-chose. Alors, les parents, on ne priait pas à la maison. Donc, évidemment que dans un pays très catholique à l'époque, un petit peu moins maintenant... j'ai fait un pèlerinage quand j'étais enfant, c'était les pèlerinages internationaux, la journée internationale de l'enfance. En fait, on faisait un pèlerinage à Fatima, donc c'était une école publique, mais on allait à Fatima quand je devais avoir 10-11 ans. Mais sinon, c'était, je voyais à chaque fois, tous les ans, à la télé, pendant 2 jours, le 12 et 13 mai, les petites vieilles dames qui priaient le chapelet et ont passé toute la journée Fatima à la télé. Et on voyait par exemple des pèlerins marcher vers Fatima les semaines qui précédaient ou les jours qui précédaient le 13 mai, parce que c'est quelque chose de très ancré dans la dévotion dans le pays. Hein, en fait, il y a beaucoup de personnes comme ça, des dames qui partent depuis chez elles, qui habitent à 200 km de Fatima et qui vont à pied 2-3 jours avant la célébration, et dorment sur place au sanctuaire, et puis le lendemain elles prennent un bus et elles rentrent chez elles. Il y a une émotion très forte à ce lieu d'apparition. Mais pour moi, c'est plus quand j'avais 18-19 ans, je faisais déjà partie de la communauté d'Emmanuel, et pendant quelques années, la communauté avait une maison qui était à 20 mètres de sanctuaire, et on avait confié l'accueil pendant l'été à la communauté d'Emmanuel. Et donc j'ai fait quelques années, je pense que les Pères Lupien en a fait aussi, les Pères Étienne aussi, pendant 15 jours, on accueillait les pèlerins qui venaient pendant l'été, et du coup, on essayait de s'imprégner un peu de ce message, de ce lieu, parce qu'il fallait qu'on explique un peu aux personnes qui venaient. Et donc, je me souviens dans les rencontres qu'on avait pour se préparer un peu à cet accueil, de la première fois où j'ai vu le film de Fatima qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je me suis dit, mais en fait, quand je suis allée de nouveau à ce lieu d'apparition, mais en fait, Marie, elle était là. Et puis il y a aussi ces trois petits bergers qui avaient un courage incroyable avec 7, 9 et 10 ans, et ça m'a aussi beaucoup marqué ces trois petits enfants. Et puis après, un autre événement qui a beaucoup marqué mon histoire, ma vie, et que du coup c'est aussi un peu pour ça que je parlerai de ça, c'est donc le 13 mai de l'an 2000, quand le pape Jean-Paul II est venu pour béatifier les deux petits bergers. Il y a deux moments très forts dans cet événement. Donc, le pape, il arrive, le 12, il vient direct de Rome à Fatima, il n'a fait aucun discours, il arrive et il va direct à la chapelle des apparitions. Enfin, c'était au milieu d'après-midi, et il salue un petit peu le monde. Évidemment, il y avait une foule énorme, mais il va direct, il s'agenouille devant la Vierge, il enlève sa bague papa, qui a la devise Totus tous, il la remet à Marie. Ils ont chanté un Totus tous, et pendant une demi-heure, il est en silence, et on sent une intimité du pape avec la Vierge. Voilà, il sait que c'est la dernière fois qu'il viendra à Fatima. Il a toute cette histoire de son attentat, un 13 mai. Donc il sait très bien que, enfin, il a dit à plusieurs reprises que sa vie a recommencé le 13 mai 1981, quand Marie l'a sauvé de cet attentat. Et donc on sent, voilà, que Jean-Paul II, il vient vraiment pour remercier Marie. Il remet sa vie, donc il remet sa bague. Et puis le lendemain, après la messe de la béatification des bergers, il y a un cardinal qui vient lire un texte. Et en fait, on comprend, enfin, c'est Lucie qui parle et qui parle d'une vision. J'expliquerai tout ça après, mais je vous dis juste aussi pour que vous compreniez pourquoi j'ai choisi aussi de parler un petit peu de ça pendant mon enseignement. Et en fait, on réalise vous savez, il y a un secret avec trois parties, et la troisième partie du secret n'avait jamais été révélée. Et en fait, on se rend compte qu'il est en train d'écrire et d'expliquer ce que Lucie avait raconté dans cette troisième partie de secret. Donc, enfin, pendant 60 ans, on a toujours dit, c'est quoi la troisième partie du secret? Donc Marie, elle avait parlé, enfin c'était pendant la guerre, elle avait parlé qu'il y aurait une autre guerre, donc on a dit que c'était la troisième guerre, d'autres personnes qui disaient que c'était la fin du monde, enfin il y avait tellement de choses qui se disaient sur ça, moi j'étais là, au milieu de cette foule, et je réalisais, enfin même si on réalise pas très bien, parce que en fait, les moments historiques, c'est de l'histoire, donc moi j'étais à l'instant présent, mais on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui était en train d'être dévoilé, qu'on comprenait, enfin on ne comprenait pas. Donc du coup, je vous montrerai aussi un petit peu cette partie de cette vision. Voilà, donc du coup, à part de ce que je vais dire là, je ne vais pas vous raconter beaucoup plus d'autres témoignages, donc je vais expliquer un peu les apparitions. Je ne sais pas si vous savez, mais avant la Vierge, il y a un ange qui est apparu trois fois, un an avant. Et puis après le 13 octobre 1917, donc il y a eu six apparitions, Marie et Jésus apparurent aussi à Lucie plus tard, elle était dans un couvent. Et toutes ces apparitions, et puis tous les événements de tout le siècle dernier, par rapport à la Russie, au communisme, sont très marqués par ces apparitions après 1917. Et du coup, je vais un petit peu aussi vous parler de ça, que je connaissais vaguement, mais du coup, j'ai un peu lu là, parce que, en fait, avec la guerre aujourd'hui en Ukraine, la Russie, tout ça, ça me parlait un peu avec aussi cette consécration que le pape François a fait il y a un an. Le 25 mars 2022, voilà, j'essayais de voir un peu le lien avec tout ça. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça, parce que en fait, c'est l'aujourd'hui, c'est le présent, donc on ne peut pas forcément lire l'histoire dans le moment présent, mais du coup, je vais plutôt vous expliquer ce que Marie a fait dans cette histoire jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et puis voilà, après l'histoire d'aujourd'hui, c'est, je pense, la prière et la conversion personnelle de chacun de nous. Et le pape, il s'inscrit évidemment avec cette consécration qu'il a faite. Bon, voilà, j'ai déjà passé 10 minutes. Alors, donc, du coup, je commence un petit peu par le contexte historique et les apparitions. Donc, les apparitions, c'était en 1917. Donc, en 1910, il y a la République qui a été proclamée au Portugal, instaurant la séparation de l'Église et de l'État. Et donc les gouvernements se succèdent à un rythme accéléré. Donc il y a un gouverneur provisoire qui affirmera, grâce à cette loi de séparation, dans deux générations, le catholicisme sera complètement éliminé du Portugal. Voilà. Donc les apparitions auront lieu pendant la Première Guerre. Et donc, en 1916, le Portugal, qui était d'abord neutre, s'engage dans la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a une guerre civile russe qui démarra en novembre de 2017, donc c'est tout de suite après les apparitions. Donc, c'est pour ça que je parle tout de suite de la Russie, pour que vous puissiez aussi comprendre cette histoire. Donc, avec la prise de pouvoir de Lénine, l'établissement du premier régime communiste de l'histoire. Voilà, et puis après, il y a la formation de l'URSS, un État fédéral à régime communiste, qui est proclamé en 1922 et qui sera déçu en 1991. Alors, Fatima, donc pour ceux qui... Alors, qui ai-je déjà été à Fatima? Ah, ça va. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, alors. Donc, un petit lieu, donc 2500 personnes, qui n'était pas très connu. Donc, c'est une centaine de kilomètres de Lisbonne. Et donc, c'est un lieu très, voilà, au milieu de nulle part. Voilà. Des paysans rudes et laborieux, occupés aux travaux des champs. Et donc, dans ce petit village, il y a trois enfants. Donc, les voilà. Donc, on peut voir, hein, par là. Il n'y a pas beaucoup de photos d'eux. Hein, donc, c'est celle-là qui apparaît souvent. Et on voit bien, voilà, des enfants qui sont humbles et pauvres.
Souriants.
Souriants. Donc, Lucie, qui est née en 1907. Donc, elle est morte en 2005. Donc, elle avait presque 98 ans. Elle a 10 ans au moment des apparitions. Et donc, c'est elle qui va toujours parler avec Marie. Après les apparitions, donc, elle rentre dans la vie religieuse. Donc, c'était pour ça qu'il y avait un petit... C'était écrit en portugais. Je suis désolée, j'ai essayé de corriger. Et puis, après, j'ai repris mon ancien. Il y a une petite... Voilà. Donc, après, elle devient carmélite à Coimbra, où elle demeure jusqu'à sa mort. Donc, moi, j'ai aussi le souvenir... témoignage aussi. J'ai habité à Coimbra, elle est morte en 2005, et donc à l'époque j'habitais à Coimbra, donc je me souviens que le jour où elle est décédée, le Carmel a ouvert les portes et on pouvait passer devant son corps. Donc il y avait beaucoup de monde, donc on ne pouvait pas s'arrêter, mais je suis passée devant le corps de Lucie le jour où elle est décédée, donc ça m'a aussi... J'ai prié pour qu'elle puisse m'aider à évangéliser. Puisque Lucie a vraiment cette mission, voilà, de faire connaître la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu. Donc, Marie lui a dit qu'elle resterait un petit peu plus que les autres pour pouvoir propager son message. Un François, né en 1908, donc il mourra à 11 ans, et il a 9 ans au moment des apparitions. Et alors François, il n'entend pas. Donc, ni les apparitions de l'ange, ni les apparitions de Marie. Il voit seulement. Et à chaque fois, si vous avez vu les films, on entend, en fait, elle répète ce que les enfants répètent. Parce que, par exemple, l'ange, il leur dit « répétez après moi ». Et donc, il y a Lucie et Jacinthe qui vont répéter. Et puis, on entend François qui répète après. Et à la fin de chaque apparition, il demande toujours à Lucie « qu'est-ce que Marie a dit ?» Et donc, Lucie prend le temps de lui raconter, de lui expliquer un petit peu ce que Marie, ce que l'ange ont dit, et en fait, du coup, il est vraiment un contemplatif. En fait, on dit que la vision lui suffisait, en fait, il n'avait pas forcément besoin de plus. Et donc, il sent un appel à l'adoration et à la contemplation. Et du coup, il arrête de se rendre à l'école pour passer plus de temps en prière. De toute façon, Marie lui avait dit qu'il irait au ciel bientôt, donc il trouve qu'aller à l'école, ça ne serait pas grand-chose. Et donc, il préfère aller prier. Et qu'il aime aller dans l'église, adorer en silence le Saint-Sacrement dans le tabernacle. Il était de longues heures dans l'église paroissiale, dans l'intimité du silence, restant en compagnie de Jésus caché. Voilà, c'est vraiment un adorateur, un consolateur. J'aime beaucoup François. Et puis Jacinthe, donc c'est la plus petite, elle est née en 1910. Elle est morte en 1920. Elle a 7 ans au moment des apparitions. Donc, c'est une petite qui traduit la joie, la pureté et la générosité de la foi. Donc, tous les petits détails de sa journée, toutes les contrariétés de sa maladie étaient des raisons pour en faire un don à Dieu, pour la conversion du pécheur. Voilà, elle dit tout, tout ce qu'elle sait toujours. Elle prie beaucoup pour le pape. Elle prie, il faut prier pour le pape, prier pour le Saint-Père. Et elle offre tout pour la conversion des pécheurs. Voilà, et d'autres fois, elle partageait son repas avec les pauvres. offrant son jeûne en sacrifice, comme un signe de don de sa vie par amour pour le bon Dieu et l'humanité. Prier et souffrir pour l'amour, c'était là son idéal, ce dont elle parlait. Voilà, donc un an avant les apparitions de Marie, il y a un ange qui dit « Je suis l'ange de la paix, je suis l'ange du Portugal ». Donc c'est dans un endroit, pas au même endroit où Marie est apparue, à 2 kilomètres. Voilà, un lieu qui s'appelle Loque do Cabeçu, je vois l'image. Donc dans cette première apparition, donc, alors je vais pas mal décrire les apparitions, et en fait c'est Lucie qui raconte hein, dans les mémoires de Lucie. Et donc il y a des choses qui sont, voilà, soit ce que l'ange a dit, soit ce que Marie a dit, mais c'est ce que Lucie a décrit, ce qu'elle a décrit. Et en fait je me suis dit au début, je vais un peu expliquer, dire les choses, mais je trouve que c'est tellement beau et tellement clair ce que Lucie a décrit que je ne vais pas rajouter grand chose. Et j'ai écrit vraiment ce que, enfin, on a pas mal de choses dans les extraits des apparitions. Donc les enfants aperçoivent une lumière blanche comme la neige. Une lumière transparente, brillante comme un cristal et d'une grande beauté. Elle a la forme d'un jeune homme. Et donc elle dit que, s'agenouillant à terre, il baissa le front jusqu'au sol. Poussé par un mouvement surnaturel, nous l'imitâmes et nous répétâmes les paroles que nous lui entendons prononcer. Et donc là, il va dire cette prière qu'on appelle la prière de l'ange. Donc, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et donc, et il a répété 3 fois et puis après il se révéla et nous dit « Priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs aux voix de vos supplications. » Et voilà, cette première visite de l'ange marque profondément les enfants, vous l'imaginez, à 7, 9 et 10 ans. Ils jouaient... à pâtre d'un mouton et tout à coup ils ont cette apparition. Donc Lucie raconte que l'atmosphère qui nous enveloppait était si intense que pendant un long moment nous nous rendions à peine compte de notre existence. La présence de Dieu se faisait sentir d'une manière si intense et si intime que nous n'osions même plus parler entre nous. Donc voilà, cette première apparition va transformer un peu leur vie et puis après il y a toute la suite des apparitions de la Vierge évidemment. Donc dans la deuxième apparition, l'ange apparaît et puis leur dit « Que faites-vous ? Priez, priez beaucoup. Les cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. » Et donc Lucie demande « Comment devons-nous nous sacrifier ?» Et donc l'ange lui dit « De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice. » En acte de réparation pour les péchés dont il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. Voilà, ça a profondément aussi du coup, marqué les enfants qui, de tout ce qu'ils pouvaient, offraient des sacrifices. Ça va être quelque chose qui va marquer toute leur vie, leur petite vie pour les deux petits et pour Lucie. Donc Lucie dira... C'est pourquoi, à partir de ce moment, nous avons commencé à offrir au Seigneur tout ce qui nous mortifiait, mais sans chercher à nous imposer des pénitences particulières, sauf celle de passer des heures entières prosternées sur le sol à répéter la prière que l'ange nous avait apprise. Et puis elle rajoute, les paroles de l'ange se gravèrent dans notre esprit comme une lumière qui nous fait comprendre qui est Dieu. La valeur du sacrifice et combien celui-ci lui est agréable, comment, par égard pour ce sacrifice, Dieu convertit les pécheurs. Alors, je pense que le mot sacrifice est quelque chose qu'aujourd'hui on a un peu du mal à entendre, mais voilà, ces enfants ils ont vraiment compris. Ils ont compris qu'en fait, faire des sacrifices c'était agréable à Dieu et qu'il pouvait convertir les pécheurs. Et voilà, et du coup. Du coup, voilà, et après, donc, l'ange leur dit « Surtout acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Voilà. » Alors, troisième apparition, donc ça c'est en automne, donc la première était au printemps. Donc ils sont à genoux, les visages par terre, et en fait ils priaient la prière de l'ange, donc vous pouvez vous rendre compte hein, combien ça vous avait marqué. Ils étaient en train de prier cette prière. Et en tenant dans ses mains un calice, et au-dessus de lui, une hostie, d'où tombaient dans le calice quelques gouttes de sang. Laissant le calice et l'hostie suspendus dans l'air, il se prosterna jusqu'à terre et il répéta trois fois cette prière. Donc ça, voilà, ça, c'est une autre prière importante de ces apparitions de l'ange. Donc l'ange les apprend cette prière. Très sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. J'imagine que les enfants ne devaient pas comprendre grand-chose de ce que ça voulait dire, mais ce n'était pas très important. Enfin, ils ont compris qu'il fallait... qu'il fallait adorer Jésus dans l'Eucharistie, parce que cette apparition, c'est vraiment la présence eucharistique qui est très forte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à Fatima, il y a cette présence de l'adoration eucharistique qui marque beaucoup aussi ces apparitions. Il y a des apparitions de la Vierge, évidemment, il y a ces lieux d'apparition. Mais voilà, il y a cette réparation dans l'adoration eucharistique et qui marque aussi beaucoup ce lieu. Donc, puis se relevant, il prit de nouveau dans ses mains le calice et l'hostie, il me donna l'hostie, donc ça c'est Lucie qui parle, et donna le contenu du calice à Jacinthe et à François, en disant en même temps, « Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats. Réparez leur crime et consolez votre Dieu. » Il se prosterna de nouveau jusqu'à terre et répéta avec nous encore trois fois la même prière. Voilà, il répète cette prière pendant trois fois. Ok. Alors, on dit qu'il faut que je l'accélère. Donc, après ces apparitions, donc un an après, il y a Marie voilà, qui est venue. Qui a dit qu'elle était Notre-Dame du Rosaire. Donc, ça, c'est une photo de 1920, quelques années après les apparitions, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est difficile de s'imaginer ce lieu, parce qu'il y a une grande esplanade et un grand sanctuaire. Voilà, donc, en 1917, donc un dimanche, sur un chêne vert, les enfants aperçoivent une dame toute blanche, et comme Lucie va dire, plus brillante que le soleil le plus éclatant. Donc Marie va leur dire, je vais montrer les six apparitions, j'ai mis des petits extraits de ce que Marie a dit. Donc je suis venue pour vous demander que vous veniez ici les six prochains mois, le 13 de chaque mois, à cette même heure. Voilà. Elle arrive, elle dit, venez ici tous les 13, de mai à octobre. Et puis, voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés dont il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? Et les enfants, ils disent, oui, nous voulons. Vous allez donc beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Et donc, après ça, elle ouvrit les mains pour la première fois et nous communiqua une lumière très intense, comme un reflet qui aura émané d'elle, pénétrant en nous par la poitrine et jusqu'au plus intime de notre âme. Nous faisons-nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était cette lumière, plus clairement que ce que nous aurions pu voir dans la lumière des miroirs. En fait, cette lumière, Marie va la faire sentir plusieurs fois, et en fait, c'est cette présence de Dieu. Qui va beaucoup les toucher. Moi, ça me touche aussi beaucoup dans ces apparitions. Quand ils vont avoir la vision d'enfer, ils disent que si Marie ne leur avait pas montré cette lumière, ils n'auraient pas supporté. Et donc, c'est vraiment une consolation, c'est la présence de Dieu qui les touche. Voilà, donc un mois après, il y avait 60 personnes. Donc Lucie demande à Marie de les amener au ciel. Et donc elle dit, oui, Jacinthe et François, je les amènerai bientôt, mais toi, tu resteras ici pendant un certain temps. Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et de me faire aimer. Puis elle lui leur dit, donc pour la première fois, là, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Alors Lucie demande si elle va rester toute seule. Elle est un peu triste. Et Marie lui dit, non, ma fille, tu souffres beaucoup. Ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Voilà, Marie lui promet qu'elle l'abandonnera pas. Et donc, ce fut au moment où elle prononça ses dernières paroles qu'elle ouvrit les mains et ne communiqua pour la seconde fois ce reflet de cette lumière immense. Voilà, à chaque fois, elle explique un peu ce que ça faisait en eux. Nous nous vîmes comme submergés en Dieu. Jacinthe et François paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s'élevait vers le ciel, et moi dans celle qui se répandait sur la terre. Devant la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré d'épines qui semblait s'y enfoncer. Nous avons compris que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité, qui demandait réparation. Voilà, donc après, le 13 juillet, c'est une apparition assez importante. Et donc c'est là où il y a ces trois parties du secret. Donc Lucie, au départ, elle raconte pas toute cette partie. Donc là, il y avait entre 4 000 et 5 000 personnes. Donc la première partie concerne la révélation de l'enfer. Donc ça avait été révélé en 41. La seconde partie, la dévotion réparatrice au cœur immaculé de Marie et la conversion de la Russie. C'était aussi révélé en 41. Et puis la troisième partie concerne donc les persécutions de l'Église au XXe siècle et la fécondité spirituelle des martyrs. Et comme je vous ai raconté, c'était dévoilé le 13 mai de 2000. Et donc Marie donc, ouvre de nouveau les mains comme les 2 derniers mois. Le reflet parut pénétrer la terre. Il nous vîmes, donc là c'est la vision de l'enfer qu'elle explique. Nous vîmes comme un océan de feu, et plongés dans ce feu, les démons et les âmes, comme s'ils étaient des braises, transparentes et noires, ou bronzées, ayant des formes humaines. Effrayés, comme pour demander secours, nous avons levé les yeux vers Notre-Dame, qui nous dit avec bonté et tristesse, vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs, afin de les sauver. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Et après, elle leur dit, si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. La guerre va se terminer, donc on est en 1917, donc au milieu de la Première Guerre. Mais si on ne cesse d'offenser Dieu sous le règne de Pie XI, on en commencera une autre pire encore. Afin de l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses horreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions dans l'Église. En fait, Lucie, elle va dire après que en fait, la Russie, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Elle pensait que c'était une dame méchante. Parce qu'en fait, vous imaginez les trois enfants qui vivent dans un petit lieu au Portugal, on ne connaissait pas forcément la Russie. Alors, les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira. Et un certain temps de paix sera accordé au monde. Puis elle dit, au Portugal se conservera toujours le dôme de la foi. On espère. Donc en août, alors les enfants, ils n'étaient pas là le 13, donc Marie apparaît le 19. Donc le 13, il y avait entre 15 000 et 18 000 personnes. Mais en fait, les enfants, ils ont été surpris par la visite de l'administrateur de la municipalité d'Auray, donc c'est un lieu à côté de Fatima. Et donc, il les a interrogés chez eux, et puis il dit qu'il va voilà, les amener au lieu, et en fait, il veut à tout prix qu'ils révèlent le secret. Et en fait, voilà, il les conduit à son domicile à Auray, donc les enfants, ils ne pouvaient pas être là le 13. Il va faire la pression sur les petits afin qu'ils révèlent les secrets. Et donc pendant un temps, ils mettent dans une cellule avec d'autres détenus et les menacent de les faire frire dans l'huile d'olive. En fait, il dit à un, ton cousin, je l'ai déjà mis dans de l'huile, donc si tu ne me racontes pas, tu vas avoir le même sort. Et les enfants, ils disent, mais Marie ne m'a dit de pas dire, donc ils disent rien. Et donc François répondra, si nous tuent, comme ils disent, nous serons bientôt au ciel. Quel bonheur, rien d'autre n'a d'importance pour moi. Et donc, du coup, voilà, Marie va leur apparaître le 19, dans le lieu où l'ange est apparu. Donc, ce sera par mes mots. Et donc, il va leur dire, priez. Marie va leur dire, priez, priez beaucoup, faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Voilà, après 13 septembre, donc il y a entre 20 et 30 000 personnes, Marie va leur dire, continuez à dire le chapelet à Notre-Dame du Rosaire, tous les jours, afin qu'elle calme la guerre, pour obtenir la fin de la guerre, car la guerre est sur le point de finir. En octobre, notre Seigneur viendra, ainsi que Notre-Dame des Douleurs et du Carmel, Saint-Joseph, avec l'enfant Jésus, afin de bénir le monde. Et puis elle leur dit, Dieu est satisfait de vos sacrifices, mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde, portez-la seulement pendant le jour. Voilà des petites choses comme ça, des petits échanges de la vie réelle. Une corde? Oui, ils mettent une corde pour souffrir. Donc le 13 octobre, c'est le jour de la dernière apparition, Marie avait promis qu'elle ferait un miracle. Donc il y a entre 50 000 et 70 000 personnes. Elle leur dit, je veux te dire qu'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter les chapelets tous les jours. La guerre va se terminer. Et les militaires retourneront bientôt chez eux. Et après, il dit qu'ils n'offensent plus Dieu, notre Seigneur, qui est déjà trop offensé. Et puis ensuite, donc, il y a ces miracles. Donc la foule a contemplé la pluie, donc il pleuvait beaucoup hein, ce jour-là. La pluie cessa soudainement et les nuages se dispersèrent. Dans le ciel clair, la foule put regarder le soleil directement, sans risque de se brûler les yeux ou d'en être incommodée. Avant de voir ce qu'on a ensuite appelé la danse du soleil. Donc l'astre tourna sur lui-même à une vitesse vertigineuse en lançant des gerbes de lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il semblait s'approcher de la terre au point que la foule s'en inquiéta. Cette danse du soleil put être observée jusqu'à plusieurs kilomètres de Fatima. Donc il y a deux petites photos de l'époque. Et donc dans un journal, il y a quelqu'un qui dit, ébloui, le peuple contemple l'azur du ciel, le soleil a tremblé, le soleil a eu des mouvements brusques, fait contraire à toutes les lois cosmiques, le soleil a dansé, selon l'expression typique des paysans. Voilà. Et donc après ces six apparitions, donc les enfants, les deux petits, ils sont morts très vite après, et Lucie, comme je vous ai dit, donc elle part en Espagne. Et là, elle va avoir trois apparitions. Donc, après les apparitions de Fatima, Jésus est venu personnellement demander à Sœur Lucie une démarche particulière pour réparer les péchés que blesse le cœur immaculé de Marie. Donc, il a demandé de faire cette démarche au cours des 5 premiers samedis du mois de suite. Donc, c'est la dévotion des 5 premiers samedis. Ici apparaît, Jésus va demander aussi. La dévotion des premiers vendredis. Donc c'est aussi à cette période que Marie demande la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Et donc depuis, en fait, donc ça c'était entre 1925 et 29, et il y a eu plusieurs papes qui ont fait plusieurs consécrations. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est dévoilé, parce que je trouve ça très drôle. Voilà, et donc les trois apparitions, donc... En 1925, donc Marie lui apparaît avec à son côté un enfant porté sur un nuage lumineux. La très sainte Vierge, lui posant la main sur l'épaule, lui montra en même temps un cœur entouré d'épines qu'elle tenait dans l'autre main. Et du coup, l'enfant, Jésus lui dit, prends pitié du cœur de ta très sainte mère, entourée d'épines que les hommes ingrats y enfoncent à tout moment, sans qu'aucun acte de réparation ne soit fait pour les en retirer. Et ensuite, la très sainte Vierge dit, vois ma fille, mon cœur entouré d'épines que les hommes ingrats y enfoncent à chaque instant, par leur blasphème et leur ingratitude. Toi, au moins, tâche de me consoler et dis qu'à tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et passeront 15 minutes avec moi en méditant sur les 15 mystères du rosaire, en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut des âmes. Après la deuxième apparition, c'est dans un jardin de là où elle habitait, le couvent, en février 1926. Donc, en revenant là, pour vider une poubelle en dehors du jardin, comme d'habitude, j'y trouvai un enfant qui me parut être le même que j'avais déjà rencontré une fois auparavant. Et je lui demandai alors, as-tu demandé l'enfant Jésus à la Mère du Ciel? L'enfant se tourna vers moi et me dit, et toi, as-tu révélé au monde ce que la Mère du Ciel t'a demandé? Et ayant dit cela, il se transforma en un enfant resplendissant. Donc après, il s'en suit une petite discussion entre Lucie et Jésus, et puis Jésus lui dit, c'est vrai, ma fille, que beaucoup d'âmes commencent, donc c'est la dévotion des 5 premiers samedis, mais peu vont jusqu'au bout. Et celles qui persévèrent le font pour recevoir les grâces qui sont promises. Les âmes qui font les 5 premiers samedis avec ferveur et dans le but de faire réparation au cœur de ta mère du ciel me plaisent davantage que celles qui en font 15, tièdes et indifférentes. Je me demande si. Enfin, je vais tous les samedis à la messe, donc j'ai dû faire plusieurs fois 5 premiers samedis, mais est-ce que je le fais avec ferveur? Voilà. Donc, troisième apparition en 1929. Ce fut à cette époque que notre Seigneur m'avertit que le moment était venu où il voulait que je fasse connaître à la Sainte Église son désir de la consécration de la Russie et sa promesse de la convertir. Donc, elle raconte qu'elle avait demandé et obtenu la permission de ses supérieurs et de son confesseur de faire une heure sainte. De 11h à minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi de chaque semaine. Ça nous parle maintenant. Donc, me trouvant seule une nuit, je m'agenouillais près de la balustrade, au milieu de la chapelle, pour réciter prosternée les prières de l'ange. Me sentant fatiguée, je me relevais et continuais à les réciter de grand croix. La seule lumière était celle de la lampe du sanctuaire. Donc là. Donc, soudain, toute la chapelle s'éclaira dans la lumière surnaturelle et sur l'autel apparut une croix de lumière qui s'éleva jusqu'au plafond. On voyait un calice et une grande hostie sous laquelle tombaient quelques gouttes de sang qui perlaient sur les joues du crucifié et sortaient d'une blessure de la poitrine. Coulant sur l'hostie, ces gouttes tombaient dans le calice. Sur le bras droit de la croix se trouvait Notre-Dame. C'était Notre-Dame de Fatima avec son cœur immaculé dans la main gauche. Sans épée ni rose, mais avec une couronne d'épines et de flammes, avec son cœur immaculé dans la main. Et sur le bas de bras gauche de Jésus, je vais remontrer l'image après, des grandes lettres comme d'une eau cristalline qui aurait coulé au-dessous de l'autel formaient ces mots grâce et miséricorde. Je vais revenir en arrière juste pour vous montrer la photo. Voilà. Et donc il y a écrit grâce et miséricorde qui coulent sur le bras de Jésus. Et donc après, elle lui dit, le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ses moyens. Les âmes que la justice de Dieu condamne pour les péchés commis contre moi sont si nombreuses que je viens demander une réparation. Sacrifie-toi à cette intention et prie. Voilà, donc après, donc je vais aller un peu vite parce que je pense que ça va. Donc, entre la fin de ses apparitions en 1989, donc il y a 60 ans d'histoire. Donc, dès lors, Saint-Lucie, avec une étonnante ténacité, essaye de faire prendre connaissance au pape de cette demande. Donc, en fait, elle va essayer de remuer ses terres. Elle se sollicite son évêque, qui écrit au pape Pie XI. Il ne répond pas, donc elle insiste. Et puis l'évêque, moins peu servant qu'elle, va lui dire « Écris toi-même au pape ». Après, en 1936, Lucie, elle demande à notre Seigneur pourquoi il ne convertirait pas la Russie sans que le pape fasse la consécration. Et Jésus va lui dire, parce que, répond-il, je veux que toute mon Église reconnaisse cette consécration comme un triomphe du cœur immaculé de Marie, afin d'étendre ensuite son culte et placer à côté de la dévotion à mon divin cœur, la dévotion à ce cœur immaculé. Donc Marie lui dit, mais mon Dieu, le Saint-Père ne me croira pas si vous ne le mouvez vous-même par une inspiration spéciale. Et elle lui dit, le Saint-Père, priez beaucoup pour le Saint-Père. Il la fera, mais ce sera plus tard. Donc voilà, ça c'est Lucie et Jean-Paul II. Donc, après, donc, Pie XII, qui a été ordonné évêque le jour même, le 13 mai 1917. Donc en 1942, il consacre le monde au cœur immaculé de Marie, mais d'une façon très cachée, donc on est en pleine guerre, donc dans une allocation radio diffusée. Donc il ne cite pas la Russie. Et après, il renouvelle cette consécration le 8 décembre. 10 ans plus tard, il renouvelle de nouveau cette consécration dans une lettre apostolique en mentionnant tous les peuples de la Russie. On peut lire « Je consacre et vous d'une manière très spéciale tous les peuples de la Russie au cœur immaculé de Marie. La Russie est bien nommée, mais il n'y a aucune cérémonie publique et solennelle, et les évêques du monde entier ne sont pas appelés à s'y unir. » Voilà. Après, donc Jean XXIII, il n'y a pas beaucoup de choses sur Fatima liées à lui. Donc Paul VI, en 64, donc, il prit connaissance du message, et il connaît donc les demandes de la Vierge. Donc à la fin de la troisième session du Concile Vatican II, il consacre le monde au cœur immaculé de Marie avec tous les évêques présents. Mais il s'agit d'une allocation et non d'une cérémonie solennelle. Et il se contenta de remettre le genre humain au cœur immaculé de Marie. Donc il va dire à ton cœur immaculé, ô Marie, nous remettons finalement le genre humain tout entier. Et après, donc, il va venir à Fatima le 13 mai 67. Et Lucie a reçu la permission de sortir du Carmel. Évidemment, elle ne sortait jamais, donc elle est venue quelques fois, très peu de fois à Fatima après les apparitions. Donc elle a de nouveau tenté d'en parler au pape, mais ce dernier n'était pas très enthousiaste vis-à-vis des révélations privées, même si c'était rendu en pèlerinage. Et donc Lucie va lui glisser « J'ai besoin de vous parler », et le pape va lui répondre « Passez par votre évêque ». Voilà, ça c'est dit. Et donc après, Jean-Paul II... Donc, le 13 mai 1981, donc, sur la place Saint-Pierre, il y a 25 000 personnes, et donc il va y avoir cet attentat, 64 ans après les apparitions. Et donc, il a paru clairement à sa sainteté qu'il y avait eu une main maternelle pour guider la trajectoire du projectile, permettant au pape agonisant de s'arrêter au seuil de la mort. Donc là, la photo, c'est, vous voyez, c'est la couronne de la Vierge, où il y a la balle qui est incrustée, parce que le pape il a offert la balle au sanctuaire. Donc voilà, il fallait que l'attentat ait lieu pour qu'enfin un pape accède à la demande de Marie. C'est le pape lui-même qui le dit. Et donc c'est sur son lit d'hôpital que Jean-Paul II va comprendre l'importance de la demande de la Vierge. En fait, il se réveille, il comprend que c'est le 13 mai, et il dit « Amenez-moi tout le dossier de Fatima ». Qu'il ne connaissait pas forcément, il connaissait pas la troisième partie du secret. Et donc là, il va lire tout ça, il va comprendre. Et donc, il décide de consacrer le monde au cœur immaculé de Marie. Il le fait, quand il vient, un an après, il vient à Fatima pour remercier Marie. Et donc là, il consacre le monde au cœur immaculé de Marie. Un mouvement très... Il se met à genoux, donc il prie avec une grande ferveur. Et donc à la fin, tout le monde est très satisfait, et le nonce demande à Sœur Lucie, « Alors, vous êtes heureuse maintenant ?» Il dit, « Oui, oui, mais ce n'est pas encore cela. » Donc imaginez, le pape s'est déplacé lui-même, avait préparé cette consécration, et Sœur Lucie qui ose dire, « Ce n'est pas encore cela. » Donc l'entourage de ces derniers était exaspéré. Comment est-ce qu'une religieuse ose donner des ordres au pape? Mais Jean-Paul II, informé de la réaction de la voyante, demande aux nonces de se renseigner auprès d'elle sur ce qui manque pour que la consécration soit enfin valide. Et elle va répondre l'union avec les évêques. Donc, le pape envoie donc lui-même une lettre à tous les évêques du monde, en y joignant la forme de la consécration et en indiquant la date à laquelle cette consécration devait être prononcée. Donc, ça s'est fait le 25 mars 1984. Et donc, après cette nouvelle consécration, Sœur Lucie va dire « Oui, le ciel l'a accepté ». Donc, 55 ans d'attente lui ont été nécessaires pour voir l'accomplissement de la demande de Marie. Voilà, et du coup, je vais vous dire un petit peu les événements qui sont suivis. Donc, en 1985, 11 mars, Gorbatchev est élu secrétaire général du Parti communiste. Un mois après, il se rend en Pologne, où il s'entretient avec le président. En 88, l'armée soviétique se retire des pays du bloc de l'Est. En juin, une délégation du Vatican, conduite par le cardinal Casaroli, effectue une visite historique à Moscou, rencontre Gorbatchev et lui remet une lettre personnelle de Jean-Paul II. Et après, donc à l'automne de 1989, c'est la chute du mur de Berlin et la débâcle à l'Est des régimes communistes. Au sanctuaire, il y a un morceau du mur de Berlin qui a été offert au sanctuaire. Voilà, entre le 1er décembre 1989, a lieu une rencontre historique, elle aussi, entre Jean-Paul II et Gorbatchev. Et donc lui-même va déclarer « Tout ce qui est arrivé en Europe orientale au cours de ces dernières années n'aurait pas été possible sans la présence de ce pape, sans le rôle également politique qu'il a su jouer sur la scène mondiale. » Donc évidemment, Jean-Paul II, lui, va dire « c'est Marie. J'ai rendu grâce pour ce que la miséricorde divine a accompli au cours du XXe siècle, grâce à l'intercession maternelle de Marie. À la lumière des apparitions de Fatima, les événements de cette période historique très tourmentée acquièrent une éloquence particulière. Il n'est alors pas difficile de mieux comprendre combien la miséricorde de Dieu a été déversée sur l'humanité à travers Marie. » Alors, donc le 13 mai de l'an 2000, donc il y a la béatification des deux petits bergers, et donc là, il y a effectivement, comme je vous ai raconté, cette troisième partie du secret qui a été révélée. Donc il y a un petit dessin de cette vision. Donc après, donc ça c'est Lucie qui raconte, après les deux parties que j'ai exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence. » Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Divers autres évêques, prêtres religieux et religieuses, montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en trombe. Le Saint-Père traversa une grande ville, à moitié en ruine et à moitié tremblant, dans pas vacillant. Affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Et donc, parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et deux flèches. Et de la même manière, moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses divers laïcs, hommes et femmes, de classes et de catégories sociales différentes. Bon, voilà, ça c'était ce que les enfants ont vu le 13 juillet 1917, et que Lucie a écrit, et qui a été... Voilà, certains papes l'ont lu, d'autres pas, et puis Jean-Paul II l'a lu après son attentat, et ça a été dévoilé en 2000. Oui. Donc Lucie réaffirme sa conviction que la vision de Fatima concerne avant tout la lutte du communisme athée contre l'Église et les chrétiens. Et elle décrit l'immense souffrance des victimes de la foi du XXe siècle. Donc Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, rappelle le sens d'une révélation privée, dont celle du secret de Fatima, dans la foi chrétienne pour l'Église catholique. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, dont certains ont été reconnus par l'autorité de l'Église. Leur rôle n'est pas de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Ainsi, pour l'Église, la révélation privée est une aide pour la foi. permettant de comprendre et de mieux vivre l'Évangile à l'ère actuelle. Donc on n'a pas forcément besoin de croire. Elle y ajoute que dans les révélations privées reconnues par l'Église, et dont aussi celle de Fatima, leur but est de nous aider à comprendre les signes des temps et à trouver pour eux la juste réponse dans la foi. Il ajoute, interpréter les signes des temps à la lumière de la foi signifie reconnaître la présence du Christ en tout temps. 2 minutes. Bon, alors. Donc ça, c'est le cardinal Sodeno, donc celui qui a révélé cette partie du secret le 13 mai à Fatima. Et donc, il dit, les événements de 1989 ont conduit en Union soviétique et dans de nombreux pays de l'Est à la chute du régime communiste qui se faisait le défenseur de l'athéisme. Pour cela, le souverain pontifice remercie de tout cœur la Vierge. Cependant, dans d'autres pays du monde, les attaques contre l'Église et contre les chrétiens, accompagnées du poids de la souffrance, n'ont malheureusement pas cessé. Donc il dit que ce texte constitue une vision prophétique comparable à celle de l'Écriture sainte, qui ne décrive pas de manière photographique les détails des événements, mais qui résume et condense sur un même arrière-plan des faits qui se répartissent dans le temps, et une succession et une durée qui ne sont pas précisées. Par conséquent, la clé de lecture du texte ne peut que revêtir un caractère symbolique. Donc, bien que les situations auxquelles fait référence la troisième partie du secret semblent désormais appartenir au passé, l'appel de la Vierge de Fatima à la conversion et la pénitence, lancé au début du XXe siècle, demeure encore aujourd'hui d'une actualité stimulante. Ça, c'était écrit en 2000.
C'est fini,
c'est le dernier slide.
C'est le dernier.
Donc, voilà, voici un résumé de ce que la Vierge ne cesse de répéter. La prière et la pénitence, comme le rappelle l'apôtre Paul, sont les armes du chrétien dans la lutte spirituelle contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Et donc, juste un petit mot de Jean-Paul II. Le 13 mai, alors que la mère, avec toute la puissance de l'amour qu'elle nourrit dans l'Esprit Saint, désire le salut de tout homme, peut-elle garder le silence sur ce qui menace les bases mêmes de ce salut? Non, elle ne le peut pas. C'est pourquoi le message si maternel de la Dame de Fatima est en même temps si ferme et si déterminé. C'est comme si Jean-Baptiste parlait sur le rive du Jourdain. Il invite à la pénitence, il avertit, il appelle à la prière, il recommande le rosaire. L'invitation insistante de la Sainte Vierge Marie à la pénitence n'est que la manifestation de la sollicitude maternelle pour le sort de la famille humaine qui a besoin de conversion et de pardon. Ça, c'est aussi Jean-Paul II qui le dit. Voilà.